Vous écoutez, on lit pour vous.
Une biorégion, péninsule acadienne, Nouveau-Brunswick. Un texte d'Alain Deneau, paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Alain Deneau envisage le territoire qu'il habite comme un laboratoire pour repenser nos urgences climatiques. Arrivé dans la péninsule acadienne, vous découvrirez un territoire prometteur. Certes, les scories de vieilles guerres de clochers refont parfois surface, mais c'est à une échelle péninsulaire qu'on tend désormais à se positionner. Les gens savent que la division fait régner des maîtres nous administrant au loin du bout des doigts, le plus souvent en anglais. Cette lente gestation convient à l'évolution du 21e siècle qui nous fera passer de la mondialisation industrielle et financière à des logiques régionales dans une contraction de l'échelle géopolitique. Les biorégions désigneront bientôt ces espaces politiques calés sur des dynamiques et des synergies écologiques. Il est aujourd'hui vital de prendre conscience de l'échelle biorégionale. Les perturbations climatiques avec leurs charges actuelles et annoncées, montée des eaux, incendies de forêt, ouragans, canicules mortelles, de même que l'extinction massive de centaines de milliers d'espèces, terrible en elle-même, aussi source de problèmes agricoles et explication aux nombreuses zoonoses et pandémies à venir, donnent à penser un monde qu'aucun développement durable ne saurait préserver. La haute finance et la grande industrie ne transmettront pas les sites naturels intacts d'une génération à une autre après les avoir exploités au passage. Au contraire, c'est de manière autonome que le système Terre désormais se détraque. Il n'a plus besoin de nous pour ce faire. Le pétrole et le gaz se feront aussi plus rares à l'avenir, de même que les minerais indispensables à la supposée possible transition énergétique du capitalisme vert. Là, face à ces enjeux, la péninsule acadienne se révèle un formidable laboratoire. Titulaire d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke, Lucille Doiron a déjà produit un tapuscrit identifiant les atouts de la région en vue de sa souveraineté alimentaire, tandis que Jeanne d'Arc Lavoie sème dans la collectivité la passion du jardinage et de la permaculture, ouvertement dans la perspective de la crise climatique. Doris Pinet fait, elle, partie des architectes d'un marché local favorisant la distribution des produits régionaux. Les prémices d'un réseau de transport en commun voient le jour cette année et la perspective de l'érosion des côtes accélère la prise de conscience des effets du réchauffement climatique dans la communauté. On n'y élabore pas encore des instances politiques à l'échelle de la Grande Presqu'île et de ses îles au large, mais le lieu même et les dynamiques communautaires nous donnent aisément à l'imaginer. Pour coordonner les efforts en vue de politiques régionales adoptées aux perspectives du siècle, parler de municipalisme ne suffit pas. Les biorégions ne correspondent pas à ces découpages municipaux d'un autre temps. La péninsule acadienne doit encore se doter de structures régionales capables de favoriser l'éclosion de politiques d'ensemble. Une économie au sens large en émergera pour organiser le rapport entre les capacités, les talents, les dispositions et les richesses des uns et des autres en vue de rencontrer leurs besoins, leurs urgences, leurs aspirations et leurs désirs. Comment s'y prendre? En demandant aux différentes capitales un transfert de souveraineté? Non. Ne pêchons pas par naïveté. En créant plutôt un parti politique pan-péninsulaire et multimunicipal qui fera élire suffisamment de maires, mairesses et conseillers municipaux pour favoriser l'orchestration, à une échelle régionale, des décisions des différentes villes. Ainsi pourra-t-on faire apparaître une instance régionale capable de penser conséquemment des enjeux centraux tels que la souveraineté alimentaire, la monnaie locale, la démocratie régionale et l'élaboration de communs. Alain Deneau est professeur de philosophie à l'Université de Moncton, campus de Chipagan, où il organise depuis 2022 l'été des humanités, pour fonder collectivement la notion de biorégion. Son essai « Laisser le choix » est paru dans Nouveau projet numéro 20. C'était une biorégion, péninsule acadienne, Nouveau-Brunswick. Un texte d'Alain Denoux paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau projet.
La chasse aux jeunes. Un texte de Thomas Leblanc paru le 29 mai 2023 dans le magazine Nouveau projet. Faillite de Vice, fermeture de la salle de rédaction de BuzzFeed News, disparition du Voir et suppression de postes aux 24 heures. Ici comme ailleurs, les médias d'information peinent à fidéliser les jeunes. Faut-il tirer la sonnette d'alarme? J'ai une confidence peu honorable à vous faire. J'ai toujours méprisé Vice, le média fondé à Montréal dans les années 1990. Marque de référence de ce que certains et certaines appellent désormais l'époque « Indie Sleaze », la décennie entre 2002 et 2012, marqué par les blogs musicaux à la Pitchfork et la Pabst Blues Ribbon. Vice a fait sa place sur l'échiquier médiatique avec sa revue papier pour hipsters et skateboarders, distribuée gratuitement dans les commerces les plus cools des villes les plus cools du monde entier. Passionné par le médium du magazine depuis l'adolescence, je n'ai pourtant jamais accroché au contenu nihiliste, ironique et pro-drogue dur de Vice, qui avait déménagé sa rédaction à Brooklyn au début des années 2000. Très génération X dans sa posture éditoriale, politiquement incorrecte, et son approche gonzo du journalisme, la publication est toutefois devenue une référence pour les millénariaux et millénariales, adeptes d'humour, pour stoners et de reportages vraiment très immersifs. Vice a incarné plus que tout autre média la marchandisation de la marge et de l'underground, notamment en établissant des partenariats avec CNN, Disney et Rogers. Malgré tout, il n'était déjà plus que l'ombre de lui-même, surtout depuis un reportage sans appel sur le climat de travail toxique de la boîte, en 2017, après l'automne, moi aussi. Dans le genre Icare qui se brûle les ailes en volant trop près du soleil, on ne pourrait pas trouver mieux. Et c'est sans parler du 1er mai dernier, quand j'ai reçu l'alerte du New York Times avec le titre « Vice is said to be headed for bankruptcy ». L'article mentionnait que le groupe avait du mal à trouver de nouveaux millions dans un climat économique morose pour l'ensemble de l'industrie. Puis, le 15 mai, on apprenait que la compagnie se mettait officiellement à l'abri de ses créanciers. Cette chute, couplée aux coupures récentes chez Québécois, notamment aux 24 heures, le média pour jeunes adultes du groupe, et à la fin des opérations de BuzzFeed News, pourtant auréolé de récompenses, laisse présager un avenir plus sombre pour les médias d'information, tentés par ce que j'appellerai ici la chasse aux jeunes. Le 3 mai, le journaliste Étienne Paré abordait justement dans Le Devoir la dégringolade de ces médias, autrefois présentés comme révolutionnaires, voire salvateurs pour toute l'industrie. Vice, BuzzFeed ou encore le Huffington Post, tous faisaient l'envie il y a encore 5 ans dans le monde des médias, résumait-il. Le sort de ces géants de la presse anglophone numérique doit aussi être placé sur une ligne du temps où on trouverait de sombres chapitres de la récente histoire des médias francophones locaux, dédiés au moins de 35 ans. De la lente agonie de Voir à la fermeture du HuffPost Québec, évoqué dans l'article du Devoir, en passant par l'incertitude au journal Métro et l'affrontement à venir entre Meta et les médias canadiens, si la loi sur les nouvelles en ligne est adoptée, il faut maintenant reconnaître que la chasse aux jeunes des dernières années a peut-être été un mirage spéculatif. Mon animosité pour Vice vient notamment du fait que j'ai fait mes premières armes chez Nightlife, un magazine montréalais gratuit qui visait le même lectorat. J'ai eu la chance incroyable d'en être rédacteur en chef au début de ma vingtaine. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. À l'époque, le slogan de New Wad, la compagnie propriétaire du magazine, était le suivant. On livre des jeunes. En plus des textes sur la scène musicale, on prenait des photos dans la rue ou dans les soirées. C'était évidemment avant Instagram et même avant les albums photos sur Facebook. Si Nightlife n'est plus imprimé depuis plus de 10 ans, son pendant numérique existe toujours dans un créneau plus axé sur la viralité et les listes. Le magazine a changé de main et inspiré le groupe Narcity, mais surtout, son lectorat a vieilli. Mais c'est quoi au juste un ou une jeune? Difficile de faire plus vague que l'expression « jeune adulte ». Désigne-t-on les 18-24 ans, en âge de fréquenter le cégep ou l'université, ou encore les 12-25 ans, une cohorte très large qui va de l'entrée au secondaire à la crise du quart de vie? La jeunesse s'arrête-t-elle à 30, 35 ou 40 ans? À 37 ans, suis-je encore jeune? Aux oreilles des auditeurs d'ici première, peut-être. Aux yeux des nouveaux et nouvelles adultes de la Gen Z, certainement pas. Alors que plusieurs millénarios et millénariales entrent dans la quarantaine sans avoir atteint certains marqueurs de la vie adulte, enfants, emploi stable à temps plein, accès à la propriété, c'est plus dur que jamais de trancher. Chose certaine, Mounir Kadouri, 25 ans, est le genre de jeune que les médias d'information souhaitent compter parmi leurs abonnés. Le créateur de contenu, mieux connu sous le pseudonyme Maire de Laval, tient une chaîne YouTube qui compte plus de 50 000 abonnés. Il publie des vidéos d'opinion où il décortique des sujets politiques et médiatiques. Lors de la campagne électorale provinciale de 2022, les chefs des 4 principaux partis qui voulaient ravir le poste de François Legault lui ont accordé de longues entrevues dans une série qui cumule des dizaines de milliers de vues. Rompu au code du web et de la viralité, le Lavallois est aussi mon collègue chroniqueur à l'émission « Tout peut arriver » sur Ici Première. Malgré tout, pour Mounir, les médias traditionnels ne représentent pas nécessairement un objectif de carrière. J'appartiens peut-être à la dernière génération qui a consommé des productions culturelles québécoises pendant son enfance, lâche le YouTuber, qui reconnaît qu'il y a une brisure entre le mainstream québécois et les jeunes. Faut que ce soit viral. La viralité revient souvent dans le discours de Maire de Laval, à ne pas confondre avec Stéphane Boyer, et ce n'est pas un hasard. Selon l'Institut Reuters de l'Université Oxford, Celui-ci appartient à la première génération native des médias sociaux, les 25 ans et moins, qui forment un groupe différent des premiers natifs du numérique, les 25-34 ans. Si un événement d'actualité important se produit, c'est par un contact sur les médias sociaux que Mounir en sera habituellement informé en premier. S'il fait l'effort de consulter des bulletins d'information ou des panels politiques télévisés, le YouTuber reconnaît qu'il appartient à une minorité de jeunes adultes. Il salue d'ailleurs les efforts des marques d'information comme TVA Nouvelles, 76 500 abonnés, et Nouveau Info, 13 800 abonnés, sur TikTok. Fait à noter, TVA Nouvelles compte 1 200 000 abonnés sur Facebook. Et Mounir n'utilise pas Facebook. Évidemment, il prêche pour YouTube. Pour lui, c'est encore un non-sens qu'on retrouve aussi peu de contenu informatif québécois sur YouTube, hormis la chaîne Radio-Canada Info, 585 000 abonnés. C'est d'ailleurs là qu'il visionne les échanges entre les membres du panel politique qui discutent de l'actualité au téléjournal. Il s'insurge du fait que tout le monde en parle, ne rendent pas accessibles ces entrevues sur la plateforme, comme le font la plupart des talk-shows américains, dont le Tonight Show de Jimmy Fallon, qu'il cite en exemple. Pour lui, les médias québécois ne peuvent pas se plaindre d'être délaissés par les jeunes s'ils ne rendent pas leur contenu disponible sur les plateformes où se trouvent ces derniers et ces dernières. Vous écoutez La chasse aux jeunes, un texte de Thomas Leblanc, paru le 29 mai 2023 dans le magazine Nouveau Projet. L'impression économique, mais encore. La pression financière est exercée sur les médias par la chute des budgets publicitaires traditionnels et par le duopole formé par Alphabet, Google, et Meta, Facebook, Instagram, est bien attesté. On ne compte plus les entreprises qui changent leur modèle d'affaires avec plus ou moins de succès. Si la recette parfaite existait, ça se saurait. Ce phénomène touche toutes les salles de nouvelles, pas uniquement l'information destinée aux jeunes. Et il ne se limite pas au Québec. J'ai voulu en discuter avec Colette Brin, directrice du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval. Le rapport des jeunes avec les médias d'information intéresse la chercheuse depuis un moment. Déjà en 2009, on s'interrogeait sur le fait que les jeunes s'abreuvaient moins aux médias d'information traditionnels. Après tout, à un jeune âge, c'est normal de moins s'intéresser au suivi quotidien de l'actualité. Mais même en vieillissant, ils ne commençaient pas à s'y intéresser. La chercheuse fait une mise en garde importante. Il ne faut toutefois pas généraliser quand il est question des jeunes, tous et toutes les mettre dans le même panier. Il existe des différences selon l'environnement urbain ou rural, le statut socio-économique, les intérêts. Justement, est-il possible que l'échec commercial de médias comme Vice, BuzzFeed News ou 24 heures vienne du fait que leur contenu s'adresse à un segment plus urbain et éduqué pour lequel il y a une immense compétition? C'est à ce moment de notre conversation que j'évoque, de manière très anecdotique, que la plupart des personnes dans la vingtaine et la trentaine que j'ai côtoyées dans les médias étaient issues de l'école privée. C'est mon cas et celui de Mounir, ou de programmes publics enrichis. Pourrait-on croire que l'école québécoise à trois vitesses, privée, public enrichi, public normal aurait contribué à créer des médias numériques par et pour les élites millénariales? L'universitaire se garde de confirmer ma thèse, mais souligne qu'à sa connaissance, c'est plus facile de mener des études sur le rapport des jeunes avec les médias en les sondant à l'université. Toujours selon Mme Brun, même à l'école secondaire, la formation sur la désinformation, 30 secondes avant d'y croire, du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information rejoint proportionnellement plus d'adolescents et d'adolescentes du secteur privé ou des programmes enrichis. Une histoire d'accès à la propriété? À 16 ans, il est déjà trop tard pour intéresser des jeunes à l'actualité, croit Colette Brun, qui salue l'initiative. Les as de l'info mises sur pied par les coops de l'information, Le Soleil, Le Nouvelliste et compagnie, pour les enfants d'âge primaire. Elle remarque toutefois que de plus en plus d'enseignants et d'enseignantes délaissent les médias d'information, ce qui pose un problème encore plus grand. Mais tout ça doit-il absolument passer par l'école? Mounir raconte que ce n'est pas l'école qui l'a poussé à s'intéresser à l'actualité, mais bien ses parents. Enfin, il regardait les bulletins d'information de France et du Maroc, en plus d'être exposé à un jeune âge, à Tout le monde en parle. La messe dominicale de la télé québécoise existe depuis la deuxième année au primaire de Mounir. En plus d'être Québécois de deuxième génération, Mounir s'exprime dans un français de jeune Lavallois, ponctué de mots anglais, transformé en néologisme, et ça semble plaire à ses abonnés. Un autre facteur serait toutefois non négligeable pour déterminer l'intérêt ou le désintérêt d'une personne pour l'actualité, surtout locale, l'accès à la propriété. La littérature scientifique a déjà bien établi la corrélation entre le fait d'être propriétaire et l'intérêt pour l'information municipale, par exemple. Colette Brun ajoute aussi le contexte régional. Selon une étude menée en 2019, les résidents et résidentes de villes comme Sherbrooke ou Rimouski auraient plus tendance à rester informés de l'actualité dans leur communauté que les citoyens et citoyennes d'une ville de banlieue comme Brossard. La crise du logement et celle des médias sont peut-être plus liées qu'on peut le croire. Manifestement, l'enjeu de la profitabilité de l'information est mondial et ne touche pas uniquement les médias destinés aux jeunes. Les GAFAM sucent les revenus publicitaires partout, mais la vulnérabilité linguistique des francophones rend cette menace particulièrement existentielle chez nous. C'est pourquoi le gouvernement fédéral a mis sur pied un programme de soutien aux entreprises de presse, programme qui serait probablement aboli le lendemain de l'élection du prochain premier ministre conservateur. Il faut faire vite. On fait quoi pour éviter que dans 15 ans, on se retrouve dans une société où l'information n'intéresse qu'une minorité éduquée, encore capable d'accéder à la propriété? Des personnes brillantes réfléchissent chaque jour à cette question pour laquelle il n'existe pas de réponse évidente. Je tente une première piste. L'information ne doit pas être rentable. L'époque des médias de masse est révolue et les médias sociaux n'ont pas vu l'émergence d'un modèle économique qui permette de faire des profits avec l'actualité. Et c'est tant mieux. Il ne faut pas laisser des entreprises comme Vice-Média ou Québecor traiter l'information comme une marchandise. Ma plate proposition passe par en haut. Comment se fait-il qu'un gouvernement provincial qui compte 4 anciens journalistes, Bernard Drainville, Martine Biron, Caroline Proux et Pascal Derry au Conseil des ministres ne fasse pas de l'éducation à l'information une priorité nationale. Le Québec a une histoire de campagnes sociétales efficaces qui ont changé les comportements. Vitesse au volant, tabagisme, jeux de hasard, activité physique, vaccination contre la COVID-19. Le gouvernement de François Legault a plusieurs défauts, mais il comprend bien l'insécurité culturelle des francophones. Il aurait tout avantage à taper encore une fois sur le clou de la fierté pour que les moins de 35 ans s'informent chaque jour auprès d'une source locale. Il en va de l'avenir du journalisme au Québec. Mais cette responsabilité ne revient pas seulement aux élus. Les parents et les enseignants-enseignantes doivent être dans le coup, dès le primaire. Et les producteurs et productrices de contenu doivent embaucher des têtes d'affiche capables de réellement mobiliser les jeunes, sans lever le nez sur le français métissé qu'on entend dans la rue et sur les médias sociaux. On peut rêver, mais j'aimerais que cette éducation à l'information se fasse dans les écoles et à la maison, sur les ondes des radios commerciales et sur les panneaux aux abords des autoroutes, sur TikTok, YouTube et à Occupation double, dans la langue parlée par les jeunes avec des mots d'anglais, de créole et de langues autochtones, mais toujours en aspirant à s'exprimer aussi clairement que Marie-Maude Denis, Noémie Mercier ou Pierre-Olivier Zappa. C'est une grande séduction qu'il faut mener pour raccrocher les jeunes à ce qui se passe chez nous. Vaste programme, mais a-t-on le choix? Ancien champion de génie en herbe, Thomas Leblanc a commencé sa carrière dans les médias au magazine culturel Nightlife avant de devenir chroniqueur à diverses émissions, d'ici première, et co-animateur du balado LGBTQ+, Chosen Family. À la radio, il collabore aujourd'hui aux émissions Tout peut arriver et De l'huile sur le feu. C'était La chasse aux jeunes, un texte de Thomas Leblanc paru le 29 mai 2023 dans le magazine Nouveau Projet.